santé. Claire et Don.
Bonjour à tous et bienvenue à New York où je vous emmène aujourd'hui. Vendredi dernier se déroulait la première journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À cette occasion était organisée au siège de l'ONU une conférence internationale réunissant les grands spécialistes mondiaux de cette maladie et les épouses de plusieurs chefs d'État africains. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui provoque des crises douloureuses intenses, une anémie grave avec un risque accru d'infection. Une détection précoce permet de réduire considérablement la mortalité infantile, car si on ne sait pas guérir cette maladie, on sait tout de même en limiter les crises et les complications. Alors je vous présente les personnes qui sont autour de moi pour en parler. Edwige Ebakissé Badassou, qui est présidente de l'OILD, l'Organisation Internationale de Lutte contre la Drépanocytose. Trois médecins autour de moi, le professeur Jacques Hélion de Paris, de l'hôpital Robert Debré à Paris, le professeur Chilolo qui est à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, le docteur Bernard Nau qui est à Port-au-Prince en Haïti, et une représentante d'une association, Marie-France Tirolien de l'APID, qui est une association de prévention et d'information sur la drépanocytose en Guadeloupe. Alors nous entendrons également dans cette émission Madame Sassou Nguesso, qui est l'épouse du président du Congo-Brazzaville, et nous irons visiter un centre de prise en charge de la drépanocytose à Brooklyn. Professeur Jacques Hélion, bonjour. Alors vous êtes chef du département de génétique à l'hôpital Robert Debré. Vous êtes également directeur d'une unité de recherche à l'INSERM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement cette maladie assez compliquée ?
Bonjour à tous d'abord. Mais je crois que vous l'avez bien décrite, hein. C'est une maladie génétique, donc où on a des sujets parfaitement sains, les deux membres d'un couple, qui portent en fait en eux un gène qui, s'il est présent chez l'enfant en deux copies, va entraîner la maladie que vous avez décrite tout à l'heure et qui se caractérise effectivement donc par une anémie, par des douleurs, par également une susceptibilité aux infections extrêmement forte. C'est une maladie qui maintenant est bien prise en charge et la préoccupation des médecins c'est vraiment d'avoir une qualité de vie des patients optimale. Et mes collègues sans doute qui sont plus cliniciens que moi, plus au contact que moi avec les patients vous en parleront. L'anémie pourquoi ? Parce que le globule rouge qui est fabriqué dans la moelle de nos os sort de la moelle des os et vit 3 mois dans le sang et sans arrêt il est remplacé par de nouveaux globules rouges qui sortent de la moelle des os. Ça c'est chez le sujet normal. Chez le sujet drépanocytaire, eh bien les globules rouges sont plus fragiles et au lieu de vivre 3 mois, ils vivent 15 jours. Vous vous rendez compte la différence entre 3 mois et 15 jours. Ça veut dire que la moelle des os des enfants et des patients atteints de drépanocytose doit être forte pour pouvoir remplacer ces globules rouges. Deuxièmement, vous avez parlé de la douleur. Alors là, pourquoi la douleur ? La douleur, eh bien le globule rouge, vous devez l'imaginer comme finalement un petit sac qu'on ne voit qu'au microscope, bien sûr, mais qui contient l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui est anormal dans la drépanocytose. Elle s'appelle l'hémoglobine S, l'hémoglobine de la drépanocytose. Eh bien, ce petit sac donc, va circuler dans la circulation du sang et va passer dans des vaisseaux très petits, à la périphérie et dans les organes, qui s'appellent les vaisseaux capillaires. Les vaisseaux capillaires, ils sont aussi fins que nos cheveux. Et il se trouve que le globule rouge, finalement, normal, il est plus gros que le vaisseau capillaire dans lequel il doit passer. Donc, pour pouvoir passer dans ce vaisseau capillaire, extrêmement fin, il faut qu'il ait des propriétés de souplesse, de déformation, et donc il va pouvoir se déformer et se faufiler à travers le globule rouge. Chez le sujet drépanocytaire, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que le globule rouge devient tout rigide, comme une espèce de petite bille métallique, imaginons, et qui va aller se bloquer dans ces vaisseaux les plus fins, les vaisseaux capillaires. S'il se bloque dans ces vaisseaux capillaires, il n'y aura plus de sang qui va arriver en aval. Le sang nous amène l'oxygène, nous amène les nutriments. Le tissu qui est en aval va souffrir et l'enfant ou le malade drépanocytaire va ressentir une douleur. Cette douleur, souvent, elle atteint les os. C'est pour ça que dans certaines langues africaines, on dit c'est la maladie qui casse les os. C'est pas vrai, c'est pas la maladie. Ça ne casse pas les os, mais la douleur peut être si intense que l'enfant, par exemple, a l'impression que son os est cassé. Et puis vous avez parlé également des complications infectieuses, qui est un point tout à fait important. Les complications infectieuses, tous les enfants en font. Quand ils commencent à sortir de la famille, qu'ils vont à l'école, à la crèche, puis à l'école, etc. C'est un phénomène normal. pour un enfant normal, il va avoir de la fièvre pendant 2 jours, 3 jours, et puis ensuite tout va rentrer dans l'ordre, il va retourner à l'école. Pour un enfant drépanocytaire, une infection complètement banale peut être très très grave et peut, dans certains cas, même causer le décès de l'enfant. Donc, toutes ces complications, il faut les prévenir. Et c'est ce à quoi tous nos collègues s'attachent à l'heure actuelle. Et c'est cette prévention des infections et le dépistage précoce qui permet maintenant d'avoir une vie et une prise en charge qui est nettement améliorée pour tous ces patients.
Alors, on reviendra sur cette question du dépistage précoce et aussi sur la question des traitements. Edwige Ebakissé, donc je l'ai dit, vous êtes présidente de l'OILD, l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Alors, cette journée mondiale, pour vous, c'est une sacrée victoire, mais finalement, qu'est-ce que ça peut changer pour les patients ?
Ça peut changer beaucoup de choses. Déjà, la reconnaissance de leur pathologie. Ce sont quand même des personnes qui vivent de manière complètement isolée depuis des décennies. Et le simple fait de savoir qu'on peut aussi parler d'eux, de parler de leurs problèmes, ça, à mon sens, c'est quelque chose de très important.
Vous en attendez quoi, finalement, d'une journée mondiale ? Aussi qu'elle améliore l'accès au traitement, de sensibiliser l'opinion publique sur cette question ?
Déjà, sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie qui est encore une maladie méconnue et qui mérite d'avoir beaucoup plus d'attention. Donc on doit mieux la connaître, on doit mieux la prendre en charge et pour nous c'est très important.
Vous avez l'impression que du coup les États, avec l'existence d'une journée mondiale comme ça, vont se mobiliser? Quand je parle des États, je parle entre autres des États africains.
Pourquoi seulement les États africains? Tous les États doivent se mobiliser. Il s'agit quand même d'une pathologie et je pense que tout le monde doit s'unir quand il y a des gens qui souffrent et qui sont malades. Il faut que tous les États prennent leurs responsabilités.
Marie-France Tirolien, vous faites partie de l'APID, hein, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose de la Guadeloupe. Vous êtes mère de 2 enfants drépanocytaires, 2 enfants qui ont 10 et 11 ans, si je ne me trompe. J'ai envie de vous demander d'abord comment vont-ils ?
Bonjour, oui, pour l'instant, écoutez, ils vont bien. Alors, Adrien, surtout celui qui a été le plus malade, va beaucoup mieux depuis qu'il est sous programme transfusionnel, hein, donc ce qu'on appelle l'échange transfusionnel. C'est vrai que sa vie a complètement changé depuis 1 an et demi parce qu'il est passé de 15 jours hospitalisé à plus du tout. Donc c'est vrai que pour un enfant de 11 ans, c'est une révolution. C'est vrai qu'il peut aller à l'école avec tous ses copains, il peut rester chez lui, il peut aller à la piscine, sauf ce qu'il ne pouvait pas faire parce que dès qu'il mettait un pied dans l'eau, il avait des crises douloureuses. Alors c'est vrai que pour lui, c'était le programme transfusionnel, c'est une révolution. Et pour moi aussi, parce que bon, c'est vrai que voir son petit garçon malade tous les 15 jours, le voir souffrir, je crois que pour une mère de famille, c'est ce qui est le plus insupportable. Voir souffrir son enfant et d'être incapable de pouvoir lui donner quelque chose pour atténuer les souffrances, je crois que c'est ce qui est le plus insupportable.
Et votre deuxième enfant qui est drépanocytaire ?
Alors, deuxième enfant drépanocytaire, c'est vrai que Léa donc, développe, pour l'instant, ne sait pas ce que c'est qu'une crise douloureuse à bientôt 10 ans. Tant mieux pour elle. Parce que c'est vrai que je ne lui souhaite pas de connaître. Moi, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais vu ce qu'Adrien a décrit, c'est quelque chose d'insupportable. Adrien m'a dit une fois, parce que quand je lui demandais « Mais qu'est-ce que la drépanocytose, ça fait mal comment ?» Sur le coup, il n'a pas répondu. Et un jour où je faisais des travaux, j'essayais de mettre une tringle à rideau, donc je perçais le mur. Et il m'arrêtait en me disant « Tu vois, la drépanocytose, ça fait mal comme ça. Mon dos, c'est le mur. » Et là, je crois que j'ai compris ce qu'il avait voulu me dire, ce que je n'avais pas compris depuis 11 ans. Je savais que ça faisait très mal, mais je n'arrivais pas à imaginer. Et une autre fois, il s'est cassé le bras. Il avait le bras cassé à 2 endroits. Et il disait qu'il n'avait pas trop mal. Par rapport à la drépanocytose, il disait que ça ne faisait pas trop mal. J'ai entendu des amis me dire qu'un bras cassé, c'est ce qu'il y avait de pire au niveau de la douleur. Et lui, il me disait que ça ne faisait pas trop mal. Alors je crois que là, j'ai un petit peu compris que vraiment, la drépanocytose, c'est une douleur atroce.
Quand, à quel moment avez-vous appris que vos enfants étaient drépanocytaires ? Est-ce que c'est à la naissance ?
Alors j'ai appris pour Adrien à la naissance qu'il était... Alors moi je ne savais pas ce que c'était que la drépanocytose. On m'avait parlé de... Alors on m'a dit il est drépanocytaire SS. Alors SS, moi ça me rappelait la dernière guerre mondiale, je ne comprenais pas très bien. SS, c'est quoi cette histoire de SS? Et en fait, je ne me suis pas trop affolée. Parce que bon, quand on ne sait pas, ben, on ne s'affole pas. Et donc, c'est vrai que quand j'ai attendu Léa, je voulais savoir. Mais alors, on n'a pas pu me le dire tout de suite parce qu'il fallait faire une, ce qu'on appelle, pas la péridurale, enfin, il fallait le faire par voix basse, on m'a expliqué. Là, je ne me souviens plus du nom.
Et en fait, c'est-à-dire que vous vouliez le savoir pendant que vous étiez enceinte, c'était ça?
Oui, je voulais savoir parce que j'avais, Adrien a fait sa première crise, il avait 6 mois. C'est une horreur. Un bébé malade, c'est une horreur. Un bébé qui souffre, qui ne crie pas, qui se plaint en permanence, je ne pouvais pas supporter. Enfin, j'ai perdu tout ce qui était de la joie de vivre, la joie d'avoir un enfant. C'est devenu un cauchemar parce qu'il souffrait tout le temps, il fallait aller à l'hôpital tout le temps. Les prises de sang, enfin, c'était vraiment un cauchemar. Et donc, je me disais, avoir un deuxième enfant dans les mêmes conditions, avec la même maladie, je trouvais que c'était pas faisable, en fait. Et en fait, quand on a pu me dire que Léa était drépanocytaire, j'avais déjà 5 mois de grossesse, elle bougeait déjà, j'ai pas eu cette force pour aller mettre fin à ma grossesse. Et en fait, après, je me suis demandé si je mets fin à la vie de Léa, comment je vais expliquer à Adrien que lui est là. Donc, j'ai gardé mes deux enfants et en fait, je ne regrette pas du tout parce que, bon, c'est vrai qu'ils sont... Je les trouve super, en fait. Malgré toutes ces... C'est vrai, toutes ces complications. Surtout toute la souffrance d'Adrien. Et puis, expliquer à Léa qu'elle porte la même maladie et qu'elle ne souffre pas, c'est quelque chose de très compliqué. Quand Adrien a des trop grosses douleurs, Léa se met à pleurer et elle dit mais je comprends pas, est-ce que je vais avoir mal comme lui, pourquoi je suis pas comme lui? Et quand Adrien est tout le temps à l'hôpital et pas elle, elle vit ça de façon très très difficile. Et Adrien aussi, il trouve ça très injuste. Il dit pourquoi moi, pourquoi je suis le plus malade, qu'est-ce que j'ai fait en plus que... Et c'est très difficile de gérer ça pour les deux enfants. Alors j'essaye de dire à Léa qu'elle a beaucoup de chance pour l'instant de ne pas développer la drépanocytose. En fait, elle, sa façon de développer, c'est l'anémie. Elle a des chutes d'hémoglobine, mais sans douleur. Elle a les yeux jaunes. Alors c'est vrai que dans sa classe, on lui dit qu'elle ressemble à un zombie. On lui dit des tas de choses un peu vilaines. Alors bon, mais elle a pas mal. Et ça, vraiment, la douleur, c'est... Je pense que dans la maladie, c'est ce qui m'a le plus traumatisée.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous sommes à New York à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui avait lieu vendredi dernier. Professeur Chilolo, vous venez d'entendre le témoignage de Marie-France. Hein, vous êtes pédiatre au centre Moncollet à Kinshasa. Effectivement, cette maladie, elle peut prendre des formes très différentes suivant les patients. Il y en a qui sont beaucoup plus fortement atteints que d'autres.
À Kinshasa, la drépanocytose se manifeste très tôt. Déjà avant l'âge de 6 mois, on a les premières complications qui sont connus dans la population par un terme qui signifie une grosse rate. Ce sont les crises de séquestration splénique ou bien encore par les tuméfactions des mains et des pieds. Mais elle est surtout caractérisée par des douleurs, des infections précoces et une mortalité très élevée avant l'âge de 5 ans. Le témoignage que nous venons d'entendre reflète tout à fait ce qu'on vit un peu partout. C'est que c'est considéré comme une maladie d'exclusion, on n'en parle pas. Maintenant, à Kinshasa, on commence à en parler depuis que nous avons mis sur pied un programme de dépistage néonatal qui a permis donc à plusieurs familles de savoir avant l'apparition des crises que l'enfant était suspect de drépanocytose. Et nous avons observé que depuis lors, les gens commencent à en parler sur toutes les chaînes et même les malades eux-mêmes n'ont pas honte ni peur de s'afficher comme tels.
Docteur Bernard Nault, vous êtes chirurgien orthopédiste au centre hospitalier du Sacré-Cœur à Port-au-Prince en Haïti. Alors pourquoi un chirurgien orthopédique s'intéresse-t-il à cette maladie?
Tout d'abord, je tiens à remercier Claire et souffrez quand même que j'emploie le terme d'anémie falciforme parce que en Haïti, pour une meilleure compréhension et une meilleure appréciation de cette maladie, je vais plutôt parler de la drépanocytose ou anémie falciforme. En effet, un chirurgien orthopédiste, il est très concerné tout d'abord par la aspect osseux de cette maladie. Il y a quand même beaucoup de lésions, d'affections. affection osseuse, nous avons des nécroses osseuses, nous avons de l'infarctus osseux, enfin des termes qui paraissent assez
compliqués,
mais cependant pour dire que quand même l'os est vraiment l'un des organes les plus atteints dans cette pathologie. Et depuis, disons, une vingtaine d'années, mon collègue Mukizi et moi, nous avons travaillé sur différentes études qui, en Haïti et en Afrique, ont monté surtout au niveau des infections osseuses, des similitudes tout à fait extraordinaires, dans la mesure où nous avons fait des études sur une vingtaine de patients avec des lésions osseuses, et nous avons remarqué que non seulement les germes étaient les mêmes, mais surtout le mode de traitement, avec un traitement non agressif, fait surtout d'une bonne hydratation, d'une bonne antibiothérapie, d'une bonne immobilisation, ça nous donnait des résultats tout à fait similaires.
Alors justement, professeur Elion, quels sont les traitements de la drépanocytose ?
Alors les traitements de la drépanocytose sont multiples. D'abord, je ne parlerai pas de traitement, je parlerai de prise en charge. C'est des mesures qui sont relativement simples. C'est effectivement être capable, comme on l'a déjà dit, de repérer un enfant drépanocytaire très très tôt, avant qu'il ne présente ses premières complications, et de mettre en place toute une série de mesures qui peuvent être des mesures thérapeutiques, la prise de médicaments, je vais en dire quelques mots, mais aussi de mesures d'hygiène de vie qui vont participer à la prévention des grandes manifestations dont on a parlé tout à l'heure.
Alors en quelques mots, de façon simple, l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Les traitements, quels sont-ils?
Alors l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame Tirolien le connaît bien, c'est les conseils que l'on donne. Ce qui est important en Afrique aussi, c'est le problème de la nutrition. Il faut que l'enfant mange bien. Mais ce qui est vraiment primordial et qui a tout changé dans le pronostic de la drépanocytose, c'est encore une fois cette détection précoce qui permet de mettre les enfants sous antibiothérapie prophylactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre tous les jours un petit comprimé d'antibiotiques qui va prévenir les infections qui peuvent être foudroyantes dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enfant prend son antibiotique tous les jours, même s'il n'est pas malade, et si à l'école il rencontre un petit camarade qui a une infection et que le microbe rentre dans le corps de l'enfant, l'organisme de l'enfant, bien l'antibiotique est déjà là. Donc le microbe ne se développe pas. À côté de ça, vous savez aussi que pour prévenir les infections, il y a tout le système des vaccinations. Donc on va faire bien entendu à ces enfants les vaccinations qu'on fait aux enfants normaux, mais on va rajouter des vaccins supplémentaires parce que c'est des enfants qui sont fragiles, comme on l'a dit, et très susceptibles aux infections.
Donc les traitements, c'est ça, principalement antibiotiques et vaccinations.
Voilà, et puis ensuite, bien sûr, il va falloir traiter chacune des complications quand elles vont arriver. Bon, bien évidemment, on a entendu Madame Tirolien parler de son petit Adrien qui avait ces crises douloureuses si dramatiques. Donc on va utiliser des médicaments contre la douleur, et puis on va utiliser toute une graduation de ces médicaments contre la douleur, c'est-à-dire qu'on appelle les antalgiques, c'est-à-dire commencer par des antalgiques relativement courants, que nous on peut utiliser quand on a mal à la tête ou à d'autres types de douleurs, et puis si la douleur ne cède pas, on peut augmenter la force des médicaments qu'on utilise et aller jusqu'au médicament antalgique le plus puissant que l'on connaisse, dont on dispose, qui est la morphine, hein, que vous savez, on donne malheureusement souvent à des malades cancéreux, par exemple, en fin de vie, qui ont des douleurs tout à fait intolérables.
Alors on va voir justement dans la deuxième partie de cette émission, si ces traitements sont disponibles sur le continent africain, qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque c'est un des grands enjeux aujourd'hui. On se retrouve donc après les informations avec mes invités, toujours pour parler de la drépanocytose à l'occasion de cette première journée mondiale de lutte contre cette maladie qui s'est donc déroulée vendredi dernier au siège de l'ONU à New York. Et nous irons également visiter un centre de prise en charge à Brooklyn.